enfants. Agissons pour que chaque jeune ait quelqu'un qui tienne à lui et sur qui il puisse compter.
France Inter,
première radio de France.
France Inter, il est 18h. Le journal Timur Öztürk.
Bonsoir à tous. À la une ce soir, quand des indépendantistes de Martinique, de Guyane ou de Guadeloupe soutiennent les Kanaks, la crise en Nouvelle-Calédonie réveille le sentiment anticolonial dans les Outre-mer, alors qu'on est loin de l'apaisement sur place, prévient la maire de Nouméa, un mort aujourd'hui sur un barrage. L'eau monte en Meurthe-et-Moselle, vigilance rouge pour les crues, elle se retire lentement en Moselle. Patrick Pouyanné, patron de Total, contesté par une partie de ses actionnaires, et puis des vidéos de quelques minutes filmé au téléphone jusqu'au long métrage de Cannes, l'application TikTok organise sa propre compétition sur la croisette.
France Inter.
Des commerces fermés, des carcasses de voitures calcinées et toujours ces barricades tenues par les indépendantistes. Nouméa reste ce soir une ville assiégée, d'après sa maire Sonia Lagarde. Malgré le déploiement de 2700 policiers et gendarmes, l'état d'urgence, le couvre-feu, un homme, un caldoche, est mort aujourd'hui, tué par balle alors qu'il tentait de forcer un barrage d'indépendantistes dans le nord du territoire. Sixième mort dans l'archipel. La crise en Nouvelle-Calédonie qui fait réagir les mouvements indépendantistes ailleurs, dans les Outre-mer. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Des voix s'élèvent de Guyane, de Guadeloupe ou encore de Martinique pour exprimer leur soutien aux Kanaks sur fond de critique de la colonisation française, Laurent.
Et cette crise calédonienne va servir à réveiller les consciences en Outre-mer, rien de moins que cela. Le député de Guyane, Jean-Victor Castor, estime que plus personne n'accepte cette verticalité, je cite, du pouvoir dans les territoires d'Outre-mer. Ce soir, une manifestation en soutien au peuple kanak est organisé à Cayenne.
Même les personnes qui ne sont pas indépendantistes sont outrées par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Je vous parle de mon pays, la Guyane, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas cette réponse. On ne traite pas les questions chez nous par la répression, parce que justement, il y a tout un narratif, il y a toute une histoire. Ne vous étonnez pas qu'après la Nouvelle-Calédonie, qu'il y ait un mouvement d'importance en Guyane. Et dernièrement encore, on a vu avec l'affaire Pinto en Martinique, la question de la terre. Les gens sont très préoccupés. Ce rapport de verticalité-là, ils ne l'admettent pas, ils ne le conçoivent pas.
La Nouvelle-Calédonie fait ressurgir les questionnements et les revendications sur la pleine souveraineté des peuples, soulignent d'autres élus de la République. Par exemple, ce député polynésien, Tematraï Le Gaïc, qui estime que ce pays ne reconnaît clairement pas la place du peuple premier. En Martinique, cette crise calédonienne souligne que l'État français ne tient pas ses promesses, exprime l'indépendantiste martiniquais Francis Carole. En Guadeloupe, le gouvernement français s'est dit prêt à discuter de l'autonomie après les émeutes de 2021 et plusieurs organisations affichent elles aussi haut et fort leur soutien aux indépendantistes calédoniens.
Les explications de Laurent Kramer, merci. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili oppose son veto à la loi sur l'influence étrangère votée par le Parlement de cet État du Caucase malgré la contestation de la rue. Veto avant tout symbolique de la présidente pro-européenne en conflit ouvert avec le gouvernement qui dispose d'une confortable majorité au Parlement pour passer outre. Deux rivières en rouge sur la carte de France, l'Agnier en Moselle et la Vezouze en Meurthe-et-Moselle. Les deux départements sont placés en vigilance rouge aux crues. En Meurthe-et-Moselle, on redoute une crue exceptionnelle sur le secteur de Lunéville. En Moselle, la situation s'améliore doucement. L'heure est au nettoyage pour les habitants touchés par les inondations. À Bouzonville, au bord de l'Agnier, Juliette, 86 ans, peine à limiter les dégâts depuis deux jours.
Eh bien, on avait tout nettoyé, toute l'eau, bon, nettoyé, enlevé l'eau. Tout est remonté jusque-là, de nouveau, la rue était vide. Les pompiers ont passé, les voitures ont passé. Et là, j'en avais pratiquement 20 cm en bas. La chaudière, machine à laver, frigo, tout dans l'eau. Est-ce que c'est foutu maintenant ou pas? Je n'en sais rien. Je ne m'attendais pas à ça. Quelle année que c'était que vous m'avez dit? Je ne sais plus.
La précédente inondation, elle avait eu lieu il y a 8 ans, enfin 2016.
Oui, oui, oui. Il y avait le même torrent dans la rue, mais j'avais l'eau que jusqu'à la moitié de mes garages. On pouvait la foutre comme ça dehors. Mais là, maintenant, c'était trop, hein.
Juliette Sinistrée au micro France Bleu Lorraine de Emma Steven. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra à Rouen lundi pour décorer le policier qui a abattu l'auteur de l'incendie à l'intérieur de la synagogue du centre-ville hier. Gérald Darmanin décorera également les policiers et les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur place. Patrick Pouyanné peut-il rester directeur général et en même temps président de Total Énergie ? Une partie des actionnaires de l'entreprise font pression contre le cumul des deux fonctions du patron avant l'Assemblée Générale qui tranchera dans une semaine. L'entreprise dénonce une campagne menée par des activistes et appelle dans un courrier ses actionnaires à voter pour le renouvellement de Patrick Pouyanné à son double poste, Maria Melkurdi.
Ce courrier est une réponse à une résolution déposée par une coalition d'actionnaires. Par exemple, la Fondation Ethos, qui représente des caisses de retraite en Suisse, ou encore l'association française Forum pour l'investissement responsable. Ils ne souhaitent pas écarter Patrick Pouyanné de la direction générale de Total Énergie, mais veulent mettre fin à son cumul des mandats président-directeur. Ils veulent au contraire introduire une meilleure gouvernance, éviter le risque de conflit d'intérêts que peut entraîner, je cite, « la concentration du pouvoir au sein d'une seule et même personne ». Et surtout, ils dénoncent une stratégie climatique insuffisante. En guise de dissuasion, Total Énergie rappelle la performance de l'entreprise. Un cours de l'action multiplié par 2 depuis fin 2020, passant de 35 à 66 euros actuellement. Les signataires de la résolution, eux, pensent dissociation des rôles pour améliorer le dialogue avec le conseil d'administration sur les enjeux de transition. Dernier exemple en date, la réflexion du groupe de transférer sa cotation principale à New York et non plus à Paris sur le CAC 40, les investisseurs américains étant moins contraints par des règles d'investissement durable que les Européens.
Maria Melkurdi, service éco de France Inter. Nous parlions de la Nouvelle-Calédonie au début de ce journal. Le gouvernement a décidé d'y couper l'accès à l'application chinoise TikTok, accusée par l'exécutif de véhiculer des tentatives d'ingérence étrangère. Pendant ce temps, à Cannes, TikTok est partenaire du festival et ce depuis 3 ans. Il organise sa propre compétition de courts-métrages qui récompense les meilleurs créateurs de la plateforme de diffusion de très courtes vidéos. Des TikTokers de plus en plus nombreux sur la croisette chaque année qui espèrent un jour crever l'écran des téléphones et être diffusés dans les salles obscures. Sébastien Sabiron.
T'entends toujours parler du festival de Cannes, mais t'as jamais vraiment compris ce que c'était et à quoi ça servait.
Totalement incognito sur la croisette, mais plus de 7 millions de fans sur les réseaux sociaux. Antoine Raca s'est fait connaître avec ses courts-métrages d'horreur sur TikTok, 1 minute 40 montre en main.
Quand on écrit nos fictions sur Internet, on pense énormément en termes de rythme. Une fois que l'histoire a commencé, on ne peut pas se permettre de perdre le spectateur pendant quelques secondes, parce que sinon il va swiper, il va aller ailleurs. Il y a une écriture particulière qui est due au format.
Sa popularité lui permet d'être invité au festival par la plateforme, une opportunité immense, mais ce passionné de cinéma garde les pieds sur terre.
On n'est pas totalement accepté par le monde du cinéma. Les gens qui nous prennent un peu de haut, je peux comprendre, mais il y a aussi des créateurs qui deviennent réalisateurs, mais ça prend du temps en fait. Dans 10 ans, la question se posera même plus.
Car la plateforme aux milliards d'utilisateurs dans le monde connaît sa force de frappe. L'an dernier, par exemple, le consentement a connu un succès surprise en salle, en partie grâce à TikTok, selon Jean-Patrick Chélan, son directeur général des opérations.
Sur le consentement, 1,5 million d'entrées, le distributeur nous dit que la moitié des spectateurs étaient en fait des jeunes spectatrices de moins de 25 ans qui n'avaient pas forcément entendu parler du film et qui sont allées en salle parce que ce bouche à oreille a fonctionné.
Et pour permettre à ses créateurs d'être plus ambitieux, la plateforme autorise désormais de poster des vidéos d'une durée maximale de 30 minutes.
Sébastien Sabiron, envoyé spécial d'Inter à Cannes. Le prix de TikTok sera remis à la fin de la quinzaine.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Le temps, c'est avec Magali Rochereau de Météo France et toujours de la pluie, Magali.
La soirée continue sous les averses dans le tiers sud du pays. On note une reprise de l'activité orageuse dans le sud de l'Aquitaine et sur le sud-ouest de l'Occitanie en première partie de nuit. À votre réveil demain, averses et coups de tonnerre se propagent sur tout le sud-ouest et jusqu'à l'Auvergne en journée. Le temps reste instable également avec des ondées et de l'orage l'après-midi de la Bretagne au nord de l'Île-de-France et jusqu'au Hauts-de-France. Quant au reste du pays, les conditions y seront plus calmes avec quelques grisailles matinales et un ciel qui se partage ensuite entre éclaircies et averses. À noter des ondées plus marquées sur les massifs de l'Est et un temps sec sur le pourtour méditerranéen qui hésite entre soleil et nuages, sauf sur l'Est de la Corse où des pluies orageuses sont attendues. Côté température, elles seront comprises entre 8 et 12 degrés le matin, entre 18 et 21 l'après-midi. Sur le flanc Est du pays, comptez 22 à 23 degrés jusqu'à 22 à 24 en région PACA et 23 à 28 degrés en Corse.
Merci Magali.
France France Inter, partenaire de Marcello Mio, une comédie de Christophe Honoré, en compétition officielle au Festival de Cannes.
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit.
Chiara est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni, et le temps d'un été, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père.
C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos?
Marcello Mio, avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini, Nicole Garcia.
Vous connaissez Marcello?
C'est quoi ces conneries, gars?
Nicole, c'est Marcello, attention.
Au cinéma, le 21 mai, un film France Inter.
La solidarité, ça vaut aussi pour mon argent. C'est pour ça que je suis au Crédit Coopératif. Parce qu'en 40 ans, c'est 80 millions d'euros de dons qui ont été collectés pour des associations avec les produits bancaires solidaires. Et oui, mes valeurs et mon argent vont bien ensemble. Et vous?
Crédit coopératif. Une autre banque est possible.
Plus d'informations sur www.crédit-coopératif.coop.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 18h10. Tout de suite en quête de politique avec vous Thomas Legrand.
Merci Timur Özturk.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, le souverainisme et la souveraineté.
Messieurs, en l'absence des deux ordres privilégiés qui méprisent notre invitation, l'Assemblée doit se constituer sur le champ. Vive l'Assemblée nationale !
Mais qu'est-ce que c'est être souverain ? Qu'est-ce que c'est être souverain quand je vous dis « l'Europe peut mourir » ? C'est que nous devons répondre à cette accélération de l'histoire, à sa dramatisation.
Dans son discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron fait une évolution. Il dit « ce concept qui nous paraissait étrange de souveraineté s'est imposé. Grâce à qui ?»
La souveraineté française, la souveraineté européenne, le souverainisme, que recouvrent ces termes? Alors qu'approchent les élections européennes, le concept de souveraineté est brandi à tout propos. Souveraineté alimentaire, souveraineté numérique, souveraineté sanitaire, militaire, souveraineté nationale ou européenne. À chaque fois qu'un responsable politique invoque la souveraineté, on comprend que l'essentiel est en jeu, qu'il s'agit d'indépendance et de puissance ou même de survie nationale ou continentale. L'Europe s'est construite à coup de transfert de souveraineté nationale vers une souveraineté européenne, vécue par certains comme autant d'abandon et de trahison et par d'autres comme autant de renforcement et d'adaptation à l'échelle des grandes puissances. Et puis, il y a cet isme, le souverainisme. Cette tendance est née dans les années 50, une réaction à l'idée de fédéralisme européen et à la construction européenne telle qu'on commençait à l'envisager après la Seconde Guerre mondiale. Le souverainisme peut cacher un nationalisme honteux, mais le plus souvent, il s'agit d'une crainte sincère de voir la légitimité démocratique nationale se diluer dans une organisation supranationale, nébuleuse, peu claire. Contrairement à ce que l'on peut croire, les premières manifestations de souverainisme sont nées loin des extrêmes, au centre-gauche. Le premier souverainiste, le mot n'était pas encore utilisé, mais il s'agit bien de la chose, le premier souverainiste, eh bien c'était Pierre Mendès France. Et oui, cela peut paraître étrange, c'est d'ailleurs ce qui isolera un peu ce grand personnage de ses amis politiques de la gauche démocratique, tous très engagés dans une construction européenne avancée. Écoutez cette lecture du propos très eurosceptique et souverainiste avant l'heure d'un discours qui n'a pas été enregistré de Pierre Mendès France en 1957 à l'Assemblée nationale. Mendès critique les termes de la ratification du traité de Rome, c'est la création de la CE, de la Communauté économique européenne, prévue cette année-là.
Mes chers collègues, il m'est arrivé souvent de recommander plus de rigueur dans notre gestion économique. Mais je ne suis pas résigné, je vous l'avoue, à en faire juge un aréopage européen dans lequel règne un esprit qui est loin d'être le nôtre. L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, nationale et internationale.
Plus tard, le mot souverainisme sera assumé par des gaullistes après la mort du général, qui s'inquiètent de voir les principes nationaux affirmés dans notre constitution se dissoudre dans la construction européenne. Écoutez par exemple Philippe Séguin, souverainiste du RPR, en 1992. Il alerte contre l'étape supplémentaire de l'intégration européenne que constituait le traité de Maastricht. Philippe Séguin, à l'Assemblée nationale, s'oppose à l'idée d'un référendum de ratification du traité.
Le projet de loi viole le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible. Il existe en effet des droits inaliénables et sacrés, les droits de l'homme et du citoyen, définis par la déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre état de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental.
Voilà, pour Philippe Séguin, la souveraineté ne peut être que nationale et on ne peut pas demander au peuple français de s'en défaire, même partiellement. Le terme de souverainiste s'appliquera aussi à une partie de la gauche dite républicaine qui avait le sentiment que la construction européenne n'était en réalité que l'établissement d'un vaste marché qui imposerait à la France une idéologie économique libérale. C'était le propos de Jean-Pierre Chevènement, candidat à l'élection présidentielle de 2002. Chevènement refusait le terme de souverainisme pour lui même, mais ce qualificatif lui était tout de même, et à juste titre, accolé.
Le clivage droite-gauche avait un sens il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, regardez, ils sont pour la privatisation. À l'un et l'autre, ils sont pour une constitution européenne. La fin de la France, la fin de la souveraineté française, de notre liberté, de notre capacité de faire nous-mêmes notre avenir. Moi, je me présente comme le défenseur de la souveraineté de la France.
Enquête de politique cette semaine sur la souveraineté et le souverainisme. Il faut remonter au XVIe siècle à Machiavel et à Jean Bodin, les deux concepteurs de la notion de souveraineté. Le philosophe Gérard Méret, auteur de « Qu'est-ce que la souveraineté ?», une somme sur le sujet aux éditions Gallimard, sera notre premier guide. On s'éloigne un peu, même beaucoup, de l'actualité des Européennes pour aller à l'origine du souverainisme et donc de la souveraineté. Gérard Méret. Gérard Méret, vous avez remarqué que le mot « souveraineté » réapparaît beaucoup dans le débat politique. On parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté économique, de souveraineté militaire. Chacun se prévaut de la souveraineté. Or, ce mot-là et cette chose-là ont une histoire.
La souveraineté, le concept de souveraineté apparaît en 1576 dans un livre, un gros livre de Jean Bodin qui s'appelle « Les six livres de la République ». Un pavé de 1000 pages, écrit très fin, etc., où Bodin explique véritablement ce que c'est que la souveraineté, et la définition qu'il en donnera, la compréhension qu'il en donnera, nourrira toute la réflexion politique, toute la réflexion de philosophie politique ultérieure jusqu'à nous.
Gérard Méret, avant de rentrer dans la définition même du souverainisme qu'en donne Jean Bodin, dites-nous juste qui est Jean Bodin.
Jean Bodin, c'est un juriste, philosophe du XVIe siècle, assez peu connu à vrai dire. Les milliers de pages en question, et qui sont assez difficiles à lire. Il écrit sans aller jamais à la ligne, pratiquement sans mettre de ponctuation.
Donc c'est un flot que vous avez déchiffré.
J'ai dû remettre ça en français, j'allais dire. Entreprendre de lire ce texte, c'est déjà tout un travail, quoi. Enfin,
c'est tout un travail, et c'est le travail en partie de votre vie, Gérard Méret. Alors, venons-en au concept de souveraineté.
Que représente-t-il pour Jean Bodin? C'est le moment où la politique devient profane?
Voilà, c'est la politique, comme vous dites, devient profane. Le fondement de la politique est en effet profane. Mais ce que je voulais dire, c'est que les deux premières lignes de ces 1000 pages, les voici. Souveraineté est un droit à gouvernement de ce qui est commun à plusieurs ménages. Les ménages, les familles, en quelque sorte. Un droit à gouvernement de ce qui est commun de plusieurs ménages avec puissance souveraine. Une fois qu'on a dit ça, les trois premières lignes, on peut écrire 1000 pages et développer cet axiome, si vous voulez.
Oui, la théorie de la nation et même de l'État peut découler de ça.
Tout à fait, tout à fait. La nation, je ne sais pas, c'est peut-être un peu
pas
plus
encore,
tard, la nation.
Oui,
hein. En tout cas, la théorie de l'État est fondée là-dessus. La souveraineté est ce qui donne l'être à l'État. C'est ce que dira un disciple immédiat de Bodin qui s'appelle l'Oiseau.
Donc c'est plus Dieu.
L'idée fondamentale ne sait pas sous cette forme exactement que Bodin l'énonce. L'idée est que la puissance souveraine n'est fondée ni en Dieu ni dans la nature. Le fondement politique dans la nature, par exemple, c'est une tradition qui vient d'Aristote. Les hommes vivent politiquement, ce ne sont pas seulement des animaux comme ça, ça vit politiquement un humain. Quant à un fondement de la politique en Dieu et des règles politiques en Dieu, c'est-à-dire au fond c'est le christianisme et le catholicisme en particulier en France, dans lequel, dans la doctrine duquel et dans la foi duquel se fonde le principe d'autorité. Mais il y a donc chez Bodin la tentative de trouver un fondement de l'autorité supérieure dans ce qu'il appelle la souveraineté, laquelle est l'effet et le résultat de la volonté humaine. Donc c'est uniquement la volonté humaine qui fonde l'État.
Donc c'est plus la nature, c'est plus Dieu,
c'est plus la nature,
c'est plus la
Dieu.
Philosophie,
voilà.
C'est comme ça, c'est plutôt Machiavel qui rompt avec ça. C'est la volonté humaine et donc c'est finalement la naissance de la politique au sens où on l'entend.
Où on l'entend maintenant, c'est ça. C'est-à-dire l'idée d'un rapport de force.
Et alors, Machiavel, quelques années avant, vous dites que lui cite une fois ce mot « souveraineté ». Qu'est-ce qu'apporte Machiavel dans l'idée de la souveraineté?
Ce qu'apporte Machiavel, c'est l'idée que la politique, comme je viens de le dire, c'est un rapport de force. Et donc, penser la politique, c'est penser le rapport de force. Et ce n'est pas rapporter la vie politique ou le fondement de la vie politique dans la volonté divine ou dans la volonté de la nature ou dans l'ordre naturel. C'est ramener cela à ce qu'il appelle la condition humaine, la compréhension des rapports de force qui constituent la condition humaine. Et ça, je dois dire que cette affirmation de Machiavel est l'affirmation de ce que j'appelle la politique profane, le fondement profane de la politique en général et de l'État en particulier, c'est ce qui nourrit l'ensemble de la philosophie politique moderne. J'appelle moderne, bien sûr, cette période historique qui, au fond, trouve son origine dans la Renaissance, l'humanisme au XVIe siècle.
Et donc, quand Machiavel puis Jean Bodin découvrent ou décrivent la politique comme
l'affaire humaine.
Une affaire humaine, ouais. C'est une révolution parce que, finalement, on s'aperçoit que le destin est entre nos mains. Les hommes peuvent s'apercevoir que le destin est entre leurs mains. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Le grand public retient de Machiavel plutôt ce qu'il peut y avoir comme manipulation parce qu'il s'intéresse au prince. Mais en quoi c'est une révolution quasiment presque anthropologique?
Parce que les hommes prennent en main leur destin.
Oui, mais alors la souveraineté, par exemple, monarchique en France, à l'époque, était quand même de droit divin.
Elle est dite droit divin, mais elle n'est pas fondée sur un droit divin. C'est précisément ça la révolution de la souveraineté. C'est déclaratif. La sacralité de la personne royale, par exemple, c'est une annonce, une déclaration.
Une déclaration humaine, donc.
Voilà, oui, oui. Ouais. Lorsque le monarque se fait sacré à Reims, c'est déclaratif, justement, de sa souveraineté. Mais sa souveraineté n'est pas constituée par ça. Elle est constituée, comme dit Machiavel, par le rapport de force. Puisque la souveraineté, la puissance souveraine, est une puissance qui s'exerce en dehors de toute fondation divine ou naturelle, c'est qu'elle affirme, c'est l'affirmation, la souveraineté de la liberté des humains. Les humains sont libres d'agir, de penser, de vouloir et de définir le juste, par exemple. Il n'y a pas de référence autre qu'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que la liberté des hommes, ce soit on fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, car en fait on n'est jamais libre de ce point de vue. Il n'y a pas de liberté sans loi, sans règles. Une liberté sans loi, c'est le chaos. C'est ce qu'on appellera l'état de nature un petit peu plus tard. Il faut qu'il y ait de la loi. Et la souveraineté, c'est précisément cela. C'est l'affirmation et la définition d'une loi à l'intérieur de laquelle les humains sont libres.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
En quête de souveraineté aujourd'hui et de souverainisme, à quelques semaines des européennes, il nous faut mieux comprendre ces deux concepts qui alimentent tous nos débats et nos controverses sur l'Europe. Nous sommes toujours avec le philosophe Gérard Méret, sans doute le plus grand spécialiste de Jean Bodin, l'inventeur du concept de souveraineté. C'était au XVIe siècle, on avance un peu dans le temps. Gérard Méret, vous nous avez parlé au XVIe siècle de l'introduction de ce terme et de cette notion de souveraineté. On va venir tout à l'heure aux Lumières, à la Révolution et les États-nations. Entre-temps, il y a Hobbes et Spinoza. Quels sont leurs apports pour la notion de souveraineté?
Hobbes est celui qui véritablement construit philosophiquement la notion de souveraineté. Une des idées fondamentales de Hobbes, c'est que pour comprendre l'installation, l'institution d'une souveraineté, d'un État souverain, il faut partir de ce qu'il appelle l'État de nature. Et l'État de nature, c'est un état de guerre, de chacun contre tous. C'est la métaphore de la guerre civile. Là où il y a un rapport de force violent, c'est le cas de l'Angleterre à l'époque de Hobbes. En quoi consiste chez Hobbes la notion de souveraineté et de l'institution de la souveraineté? C'est précisément que le peuple abandonne son droit naturel pour le confier à un représentant du droit naturel de chacun, qui est le souverain, précisément. Et dès lors que le souverain est en action, en activité, en puissance souveraine, les individus ont perdu leur droit naturel. On a ici l'abandon d'une liberté individuelle afin d'obtenir la paix et une liberté collective. C'est pourquoi, d'ailleurs, on avait remarqué tout à l'heure que la souveraineté, c'est l'institution, ou plus exactement, l'avènement de la liberté à l'intérieur d'une frontière.
C'est le pas utile entre la notion de souveraineté telle que vous nous l'avez décrite avec Jean Bodin et Machiavel, le pas utile pour aller jusqu'aux Lumières et le fait de s'organiser en nation.
Au demeurant, ça serait plutôt, du coup, le passage par Spinoza qui le permettrait.
Voici donc de quelle manière peut s'établir une société et se maintenir l'inviolabilité du pacte commun, sans blesser aucunement le droit naturel.
Le philosophe Spinoza, en 1670.
C'est que chacun transfère tout le pouvoir qu'il a à la société, laquelle, par cela même, aura seule sur toute chose le droit absolu de la nature, c'est-à-dire la souveraineté. De sorte que chacun sera obligé de lui obéir, soit librement, soit dans la crainte du dernier supplice. La société où domine ce droit s'appelle démocratie, laquelle est pour cette raison définie une assemblée générale qui possède en commun un droit souverain sur tout ce qui tombe en sa puissance. Il s'ensuit que le souverain n'est limité par aucune loi et que tous sont tenus de lui obéir en toutes choses, car c'est ce dont ils ont tous dû demeurer d'accord, soit tacitement, soit expressément, lorsqu'ils lui ont transféré tout leur pouvoir de se défendre, c'est-à-dire tous leurs droits.
Cela signifie précisément que la politique, c'est effectivement toujours un rapport de force. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des révolutions. Parce que les révolutions, c'est le retour de la liberté individuelle, c'est le retour du droit naturel de chacun, qui remet en question le système politique du moment.
Donc il faut Hobbes plus Spinoza, oui, pour aboutir aux Lumières.
Oui, absolument. Je pense que Spinoza est véritablement beaucoup plus que Hobbes, le précurseur des Lumières, précisément pour cette raison que je dis, dans la politique instituée, dans l'État, les individus conservent leur droit naturel. Et s'ils conservent le droit naturel, c'est-à-dire la puissance d'agir, il y a la possibilité d'un rapport de force qui pourrait bien être violent. Autrement dit, on conserve sa liberté.
L'Assemblée juge qu'elle ne peut plus attendre. Elle décide que c'est un devoir pour tous les représentants de la nation de se former en Assemblée active.
Bravo ! Messieurs, en l'absence des deux ordres privilégiés qui méprise notre invitation, l'Assemblée doit se constituer sur le champ. Vive l'Assemblée nationale !
Vive l'Assemblée nationale !
Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, Gérard Méret, on a comme image, en premier, la souveraineté populaire, donc 1789, le tiers-État qui devient l'Assemblée nationale. C'est ça, aujourd'hui, l'acception générale de la souveraineté.
Aujourd'hui, justement, je ne sais pas, vous évoquiez cela au tout début, je ne sais pas si c'est vraiment cela qu'on entend par souveraineté. Je crois qu'on entend un peu tout et n'importe quoi.
Ah, maintenant, oui,
que,
oui, c'est vrai.
Voilà, oui, oui, alors que le fondement est celui que vous dites. C'est-à-dire que la souveraineté revient au peuple et elle s'exprime en principe dans et par le peuple. Mais il est vrai qu'à l'heure où nous parlons, la souveraineté est complètement... sa signification est détournée, je dirais même dévoyée.
On va y venir, ouais. Gérard Méret, mais ouais. Expliquez-nous d'abord comment la souveraineté que vous nous avez décrite avec Jean Bodin et Machiavel, on comprend le passage de la souveraineté divine ou philosophique à la souveraineté humaine, enfin le rôle de l'homme dans son destin et dans la politique. Comment on arrive à l'idée de nation ? On avait l'idée de l'État, comment on arrive à l'idée de nation ? Qui est le cadre, le siège, le lieu, la circonscription de la souveraineté ?
Oui, oui. La souveraineté consiste à établir un espace qui est un espace territorial, avec des frontières, au sein de quoi le pouvoir politique s'exerce. Autrement dit, la souveraineté, c'est la liberté à l'intérieur d'un espace territorial. C'est la territorialité de la politique. Et c'est par cette affaire, et là, au demeurant, la Révolution et les lendemains de Révolution le montrent très bien, cette définition de la souveraineté par la nation et dans la nation, ça crée des nationalismes.
Oui, parce que ce terme souveraineté a été longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, lié à ce nationalisme à cause de cette histoire. Finalement, les États-nations donnaient des lieux d'émancipation nationale et aussi ont donné lieu à des guerres. Et le XXe siècle, c'est la confrontation des nations, donc des souverainetés.
Tout à fait, c'est exactement ça. La souveraineté, c'est la liberté d'un côté et c'est la guerre de l'autre côté. Pourquoi la guerre de l'autre côté ? Ce n'est pas que, d'ailleurs que la guerre soit l'adversaire ou l'opposé de la liberté. Précisément
non.
Parce que...
Valmy.
Voilà. Précisément, il n'y a pas d'opposition entre la guerre et la liberté, parce que pour qu'il y ait de la liberté, il faut que l'espace territorial où s'exerce la politique soit pacifié. Il n'y a pas de liberté sans paix. Or, la paix, c'est quelque chose qui se gagne.
Ou qui s'impose.
C'est-à-dire pendant la guerre, par ou à l'intermédiaire, à la fin de la guerre, par l'intermédiaire de la guerre. On le voit très très bien aujourd'hui en Europe. La Russie veut redessiner les frontières de son côté en attaquant un État souverain voisin, l'Ukraine. Donc au fond, quand les Ukrainiens se battent, ils se battent pour leur nation, pour leur territoire, pour leur liberté. En un mot, ils se battent pour leur souveraineté.
Mais Gérard Méret, comment le souverainisme, parce qu'il faut bien rajouter un isme à ce mot, comment le souverainisme est devenu synonyme de nationalisme ? Au moment de la construction européenne, une partie de la classe politique s'est investie dans cette construction en tentant d'aller vers un fédéralisme, en faisant des délégations de souveraineté à une échelle plus grande. Et puis ceux qui... s'y opposer, considérer que les nations devaient peut-être coopérer, mais rester souveraines et garder toute leur souveraineté. Et on se souvient de ce mot de François Mitterrand.
Le nationalisme, c'est la guerre.
Et donc, avec ce mot de François Mitterrand, la souveraineté, le souverainisme est devenu synonyme de nationalisme et avait une acception assez négative, finalement, dans le débat politique.
Oui, de toute façon, c'est effectivement très négatif, pour le coup. Mais je pense que l'utilisation de la notion de souverainisme vient notamment de notre histoire immédiate.
Ce mot-là est très récent, cet isme-là
est tout à fait, il est absolument récent. Parce que, précisément, lorsque moi j'ai entendu cela, et vous évoquiez plus ou moins cela tout à l'heure, j'entends un ministre parler de la souveraineté, d'un plan qu'il est en train de construire, d'élaborer, pour que la France jouisse de la souveraineté des fruits et légumes, et la souveraineté, je cite, des protéines.
Oui, la souveraineté alimentaire.
Voilà, il a même parlé de protéines, hein, monsieur, n'est-ce pas ? Mais enfin, la souveraineté alimentaire.
D'abord, rappeler que le président de la République avait parlé de souveraineté alimentaire européenne, c'était en 2017 dans son discours de la Sorbonne.
Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, le 5 mars 2024.
J'ai parlé du plan de souveraineté sur les engrais. J'ai décidé de lancer un plan de souveraineté sur le blé dur. Même chose sur la question des protéines végétales, avec un intérêt et environnemental, climatique, et un intérêt de souveraineté.
Là, on est dans un registre qui n'est pas celui de la souveraineté au sens propre, celle dont nous parlons depuis un quart d'heure.
Oui, mais la souveraineté, maintenant, le mot souveraineté veut dire indépendance,
voilà.
Ou veut dire, par exemple, la souveraineté énergétique. que l'Europe veut retrouver en se défaisant de notre dépendance justement au gaz russe. On parle de souveraineté. Là, c'est un abus de langage ou c'est une évolution du mot ?
On peut accepter que c'est une évolution du mot, mais vous avez dit le mot, c'est indépendance qui convient.
Ouais.
C'est autosuffisance. Et là, le mot est évidemment acceptable, mais dans ce sens-là d'autosuffisance ou d'indépendance, souveraineté ne va pas.
Non, en plus, le mot, on peut remarquer que le mot est assez manipulé parce que sur, justement, la souveraineté agricole ou la souveraineté alimentaire, le mot était utilisé pour défendre le modèle actuel qui est plutôt tourné vers l'exportation et donc qui implique donc des importations. Ça n'a donc rien à voir avec l'indépendance, c'est même le contraire. Mais ça, c'est pour montrer que le mot souveraineté, et c'est l'utilité de cette émission de décortiquer les mots, le mot souveraineté est utilisé un peu abusivement. Enquête de politique sur le souverainisme. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission et les quelques 70 ismes que nous avons déjà explorés, ça fait beaucoup, mais on a encore de la réserve. Ne vous inquiétez pas, d'autant que vous pouvez nous en soumettre à la page de l'émission sur le site de France Inter. Nous retrouvons le philosophe Gérard Méret. Tout à l'heure, Gérard Méret, vous nous avez bien expliqué que la notion de souveraineté, c'était la liberté à l'intérieur d'un territoire, en tout cas la définition de la politique par une population et selon des rapports de force, mais à l'intérieur d'un territoire. Peut-on, dans ce cas-là, parler, comme le fait le président de la République, de souveraineté européenne alors qu'il n'y a pas encore de nation européenne, alors qu'il n'y a pas d'opinion publique européenne? Il y a un esprit européen, mais il n'y a pas un sentiment national européen.
J'ai beaucoup de mal à penser que l'on peut parler de souveraineté européenne. Ce qui ne veut pas dire qu'en soi, il n'est pas régulier, j'allais dire, de parler de souveraineté européenne, j'allais dire dans l'avenir, comme but. Mais on ne peut pas parler de souveraineté européenne si en même temps, et c'est ce que fait d'ailleurs le président de la République, en affirmant en même temps la souveraineté française. Un pays membre de l'Union européenne ne peut pas être souverain à l'intérieur d'un ensemble européen,
qui serait lui-même souverain,
etc. Enfin, tout ça, c'est un cercle carré.
Gérard Méret, quand même, il y a une aspiration à ce que les anglo-américains appellent « take back control », c'est-à-dire un sentiment des peuples d'être dépossédés, c'est-à-dire quand ils votent pour un exécutif, un gouvernement, un parlement, ils n'ont plus l'impression que ce parlement, cet exécutif pourra changer leur vie, que les vrais décideurs sont les GAFAM, que sont les instances supranationales, l'Europe, on accuse toujours l'Europe, les normes, etc. Et donc, est-ce que cette aspiration à la souveraineté qui nourrit le mot souverainisme, c'est pas justement une volonté de reprendre le contrôle sur sa vie?
Oui, mais cette aspiration, si vous voulez, n'est pas, je pense, n'est pas du tout spontanée. Elle est fabriquée par un ensemble politique qui tient le pouvoir et conserve le pouvoir, précisément en agissant d'un côté en faveur de l'Europe, en faveur de l'Union européenne, et de l'autre côté en insistant sur le fait de la souveraineté intérieure et de l'autosuffisance. Je pense que c'est plutôt la vie politique et l'ambiguïté de la vie politique qui fait que les peuples, je ne sais pas si le mot est exact en l'occurrence, sinon les peuples, en tout cas certaines parties des populations, demandent la souveraineté. Or, comme je viens de le dire, la souveraineté, nous l'avons toujours conservée. La preuve, c'est que si on avait abandonné la souveraineté, on n'aurait plus le droit de la reprendre. Ce serait parce que quelqu'un l'aurait prise à notre place. Mais c'est parce qu'on n'a pas du tout abandonné la souveraineté, mais seulement confié son exécution à une instance que nous pouvons reprendre cette exécution à l'instance en question. Ça a été le cas du Brexit.
Oui, alors je voudrais revenir un petit peu en arrière. Vous parlez du Brexit. En 1978, l'appel de Cochin, ce qu'on appelle l'appel de Cochin, je vous rappelle le contexte, Jacques Chirac n'était plus Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, il fait un accident de voiture, il se casse la jambe, et donc il est à Cochin, et à Cochin, il publie un texte qu'on appellera l'appel de Cochin, qui n'est pas enregistré, on n'a pas sa voix, et je vous propose une lecture de cet appel de Cochin par Franck Olivard.
Non à la politique de la supranationalité. Non à l'asservissement économique. Non à l'effacement international de la France. Nous voulons autant que d'autres que se fasse l'Europe. Mais une Europe européenne, où la France conduit son destin de grande nation. Nous disons non à une France vassale dans un empire de marchands, non à une France qui démissionne aujourd'hui pour s'effacer demain.
Voilà, c'est Jacques Chirac avec la voix de Franck Olivard, qui n'est pas un très bon imitateur, mais qui nous a fait une lecture intéressante. Toute l'ambiguïté dont vous nous parlez était dans ce texte. Je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, plutôt de centre-droit libéral, faisait des efforts pour construire une Europe, sinon fédérale, en tout cas assez intégrée, et Jacques Chirac s'y opposait par ce que vous venez d'entendre.
Oui, justement, je crois que Jacques Chirac, sans employer le mot souverainisme, commence à inaugurer le souverainisme. Je note d'ailleurs qu'il parle, lui, déjà, comme notre président d'aujourd'hui, d'une France puissante, conforme à sa grandeur traditionnelle, mais qui est tout à fait disposée à entrer dans un ensemble plus grand qu'elle, l'Union européenne, et que, précisément, c'est une souveraineté française qui entrerait dans une souveraineté américaine. Pardon, précisément, c'est le lapsus significatif, dans une souveraineté européenne.
Il ne tranche pas, c'est comme s'il pouvait y avoir deux souverainetés. Oui. Alors, François Mitterrand avait inventé une notion sans l'expliciter vraiment. L'Europe, c'est la France en grand.
Oui, enfin ça c'est aussi tout de même extrêmement ambigu. Hein. Je ne vois pas une Europe française, je ne vois pas ce que ça peut être. Napoléon a essayé, si vous voulez, de faire une Europe française. Hein.
C'était une argusie politique. Gérard Méret, vous êtes le spécialiste de la notion de souveraineté. Vous nous expliquez que aujourd'hui la souveraineté, elle ne peut pas se diviser. On ne peut pas la vanter nationalement et de façon européenne. Comment faire ?
Il faut passer au fédéralisme.
Donc le spécialiste de la souveraineté à l'Université française, Gérard Méret, est fédéraliste.
Oui, absolument, tout à fait, je suis tout à fait fédéraliste. Pour donner un exemple, depuis très longtemps, et à vrai dire depuis Victor Hugo, on parle ou on rêve des États-Unis d'Europe à la façon dont il existe les États-Unis d'Amérique. Je pense qu'il y a une constitution fédérale de l'Europe qui serait intéressant d'étudier véritablement de façon
poussée.
Voilà, absolument.
Eh ben, Gérard Méret, vous me permettez de faire une transition juste avant les élections européennes, une semaine avant, on parlera de fédéralisme et d'européisme. Je vous remercie, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre livre « Qu'est-ce que la souveraineté ?» Gérard Méret, précédé du « Recommencement d'Europe », c'est un livre folio, essai.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Les mots souverainisme et souveraineté, c'est notre thème aujourd'hui. Et nous avons alpagué Gilles Finkelstein à la sortie de l'enregistrement du Grand Face-à-Face, l'émission à laquelle il participe chaque samedi avec l'ami Thomas Negaroff, pour lui parler de souveraineté parce que la Fondation Jean Jaurès, hein, qu'il préside, s'est intéressée de près à l'usage de ce terme dans le débat politique. Gilles Finkelstein, on vient de voir avec Gérard Méret l'histoire de la notion de souveraineté, mais la souveraineté, le souverainisme comme argument politique, c'est depuis quand ?
D'abord, la souveraineté comme mot politique a, pendant des décennies, été un tabou. Quand vous reprenez toutes les déclarations de politique générale depuis 1974, 16 déclarations de politique générale, 12 utilisations du mot souveraineté. Même quand vous regardez le débat de Maastricht, donc où, pour le coup, il y a une vraie question de souveraineté qui est posée avec le transfert de la monnaie. C'est un mot qui est frappé du double registre de l'illégitimité en raison de ceux qui l'utilisent et en raison de ce à quoi il est assimilé. Souveraineté, c'est souverainisme et souveraineté, c'est nationalisme. Et aussi, de manière surprenante, de son impopularité, parce que la Fondation Jean Jaurès a fait en 2016 une enquête, et donc à cette époque-là, le mot n'est jugé positif que par 21% des Français. Donc pendant des décennies, ce mot est un tabou et il devient un totem depuis maintenant peu de temps.
Alors quand est-ce que la souveraineté rentre dans le débat politique et le souverainisme devient un drapeau que l'on brandit fièrement ?
Le point de bascule vraiment très clair, c'est le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine unie et démocratique, c'est le titre de son discours, où pour le coup, il l'utilise 21 fois. Et le mot retrouve de la légitimité par extension. C'est parce que la souveraineté est européenne que le mot redevient légitime dans une conception qui est une conception offensive du mot souveraineté, c'est-à-dire que c'est pour défendre nos valeurs et nos intérês.
Et c'est-à-dire qu'il y a un transfert qui opère et il devient positif parce qu'il n'est plus lié à la notion de nationalisme puisqu'il passe à l'Europe. C'est son élargissement qui le rend plus acceptable.
Exactement. Il retrouve une acceptabilité en devenant européen, mais redevenant acceptable, il est réapproprié après sur la souveraineté nationale parce que je disais que sur les déclarations de politique générale depuis 1974, ce mot n'était jamais utilisé, mais depuis 2022, quand vous regardez la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne et celle davantage encore de Gabriel Attal, 39 utilisations du mot de souveraineté.
Je souhaite que la France retrouve pleinement la maîtrise de son destin, qu'elle soit pleinement souveraine. Une souveraineté industrielle, technologique et numérique, une souveraineté énergétique qui nous protégera des crises, une souveraineté agricole qui nous permettra de nourrir notre pays avec les meilleurs produits, une souveraineté culturelle où notre création, notre patrimoine sont soutenus. Mesdames et messieurs les députés, je parle de souveraineté nationale, mais c'est aussi par l'Europe que nous parviendrons à la consolider.
Et là, c'est une utilisation pour parler de l'Europe ou de la nation ?
Et pour l'essentiel, pour parler de la souveraineté nationale, avec un mot qui est décliné à toutes les sauces, sans que jamais le mot ne soit réellement défini.
Vous nous expliquez, Gilles Finkelstein, que le mot souveraineté, la notion de souveraineté, était synonyme de renfermement, de nationalisme. On a entendu tout à l'heure, le nationalisme, c'est la guerre, évidemment, de François Mitterrand. Il a été lavé par son exception européenne. Il faut des frontières à l'Europe, Frontex, Schengen, tout ça, c'est positif. Et une fois nettoyé, une fois blanchi, ce mot redevient national.
C'est exactement le processus.
Sans le sceau de l'infamie.
Voilà, je dis c'était un tabou, ça devient un totem, c'est-à-dire que tout le monde réutilise et il utilisait sur à peu près tous les champs des politiques publiques, mais pour le coup sans que on sache réellement oui. À quoi il correspond. Le pays dans lequel ce mot est connoté le moins positivement, le pays dans lequel ce mot est considéré comme le plus comme dépassé, eh bien c'est la France. Et pourquoi c'est la France ? C'est parce que plus qu'ailleurs, et évidemment plus qu'ailleurs, il y a un imaginaire monarchique qui est associé au mot souveraineté. Lorsque, dans une question ouverte, vous demandez aux Français, si on vous dit souveraineté, quels sont les mots, quelles sont les idées, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit ? Dans ce genre de questions, c'est très rare qu'un mot, à lui seul, ait 10% de citation. Eh bien, en l'occurrence, 30% des personnes interrogées disent « roi ». Et sur les 11 mots les plus cités, 6 sont directement reliés à la monarchie. Mais ça ne veut pas dire que le mot de souveraineté européenne ne soit pas positif, parce que pour le coup, les Français considèrent qu'aujourd'hui c'est une réalité, mais ils espèrent autant qu'ailleurs que ça devienne une réalité, que la souveraineté européenne se renforce. Et ils voient dans cette souveraineté européenne le moyen de poursuivre ou de retrouver une puissance que nous avons perdue. C'était un peu la vieille idée de François Mitterrand, de la France en grand.
En fait, le mot souveraineté, il faut donc l'utiliser avec un adjectif derrière.
Pas nécessairement, parce que si vous dites souveraineté alimentaire, souveraineté, vous ne donnez pas plus de contenu. Et donc, ce que je crois surtout, c'est que si on veut avoir un débat public de qualité, oui. C'est qu'il faut dire ce que veut dire le mot souveraineté.
En fait, souvent, quand on met un adjectif derrière, c'est qu'on définit la manipulation qu'on veut faire de ce mot, mais ça ne le précise pas. Merci beaucoup, Gilles Finkelstein.
Enquête de politique.
Mais qu'est-ce que c'est être souverain dans cette bascule du monde ? Qu'est-ce que c'est être souverain quand je vous dis « l'Europe peut mourir » ?
Emmanuel Macron, second discours de la Sorbonne en avril 2024.
C'est que nous devons répondre à cette accélération de l'histoire, à sa dramatisation. Et donc la solution est dans notre capacité de prendre des décisions stratégiques massives, d'assumer des changements de paradigme et d'y répondre par la puissance, par la prospérité et par l'humanisme.
Petit exemple maintenant d'utilisation possessive et un peu manipulatoire du mot « souveraineté ». Écoutez bien Jordan Bardella pour le RN, c'était le 8 mars dernier dans la matinale de France Inter.
Dans son discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron fait une évolution qui est très révélatrice. Il dit « ce concept qui nous paraissait étrange de souveraineté s'est imposé. Grâce à qui ?»
Alors Jordan Bardella revendique pour son mouvement l'antériorité de la prise en compte de la notion de souveraineté dans le débat européen et prétend qu'Emmanuel Macron lui a piqué le terme. Sauf que tout oppose en réalité souveraineté nationale et souveraineté européenne. Non pas que les deux soient forcément incompatibles, hein, sur ce point d'ailleurs il y a débat, mais la notion de souveraineté européenne défendue par Emmanuel Macron, comme par les listes socialistes ou écologistes, va à l'encontre du nationalisme et de l'Europe des nations proposée par le Rassemblement national. Voilà pourquoi en politique il faut s'entendre sur les mots et leur acception précise. Acception qui évolue et qui diffère selon les étiquettes. Souveraineté nationale ou européenne, l'une ou l'autre, ou les deux. Nous terminons notre enquête de souveraineté avec le maître de conférence à Sciences Po Lyon, Julien Baroche, auteur de « Ce que l'Union européenne fait à la citoyenneté européenne en général et à la citoyenneté sociale en particulier ». C'est un titre un peu long, mais c'est son titre et c'est publié dans la revue des droits de l'homme. Julien Baroche. Julien Baroche, on parle beaucoup de souverainisme européen ces derniers temps. Le souverainisme, dans l'idée générale, c'était attaché à l'idée de nation, d'état-nation. Est-ce qu'on peut parler de souverainisme européen quand même ?
Alors, toute la question est de savoir si le concept de souveraineté qui est intrinsèquement lié à l'État peut s'appliquer à une autre échelle. Disons qu'il y a un débat doctrinal qui est féroce aujourd'hui dans le paysage universitaire, qui est le point de savoir si le concept de souveraineté, qui a été élaboré notamment par Jean Bodin à la fin du XVIe siècle, peut s'élargir aux frontières extra-nationales à l'échelle d'un continent. Comment la souveraineté, qui est d'abord la souveraineté de l'État, qui est devenue la souveraineté du peuple, peut-elle s'exercer à un niveau qui ne serait pas le niveau de la communauté politique par excellence, à savoir l'État. La souveraineté européenne, ou le souverainisme européen, c'est-à-dire le courant qui milite en faveur d'une souveraineté européenne, se manifeste précisément par cette idée d'un mimétisme étatique, c'est-à-dire reproduire au niveau de l'Europe ce que, historiquement, l'État a consacré en termes de concept de souveraineté.
Et donc, on a l'impression que l'idée européenne après la guerre s'est conçue pour éviter des guerres entre les nations. Maintenant, l'idée européenne veut rebondir, non pas pour éviter les guerres entre les nations, mais pour être une puissance comparable et qui puisse rivaliser avec la puissance russe, chinoise, indienne, états-unienne. C'est avec ces arguments-là que les partisans de la souveraineté européenne avancent leur idée. Est-ce que ça vous paraît plausible ou est-ce qu'il faut d'abord créer un peuple européen ou favoriser l'unité du peuple européen, avoir une opinion publique européenne ?
Alors je répondrai en deux temps à cette question. Vous avez dit en commençant que la construction européenne a été pensée essentiellement comme un dépassement du cadre de la souveraineté étatique. Et c'est tout à fait vrai. Dans le schéma mental des pères fondateurs, il y a cette idée que la souveraineté de l'État a mené à la guerre, a mené au nationalisme, à tous les errements du XXe siècle que l'on connaît. Et que donc, la proposition de la construction européenne, c'était de dépasser la souveraineté de l'État. Mais il y a une autre circonstance qui fait que le concept de souveraineté est redécouvert aujourd'hui, au niveau national lui-même, c'est l'élargissement, le grand élargissement de 2004, puisque ces États, eux, ont été mis sous le boisseau soviétique pendant un certain nombre d'années et que la construction européenne a signifié pour eux non pas le dépassement de la souveraineté, mais le recouvrement de la souveraineté. Et donc, il y a peut-être aussi une force ici qui milite en faveur d'une souveraineté nationale et qui vient contrecarrer les projets de souveraineté européenne qui sont essentiellement portés à l'ouest de l'Europe, pour ne pas dire essentiellement par la France et par le président Macron.
Alors, on recevait juste avant vous Gérard Méret, qui a écrit une histoire de la souveraineté. qui concluait son propos en disant « il faut qu'il y ait une souveraineté européenne et pour ça, il faut que l'Europe soit fédérale ». Il contestait l'idée qu'on puisse avoir des souverainetés successives ou en tout cas concomitantes. On a vu avec la crise agricole que la France parlait de la souveraineté alimentaire, en parlant de la France évidemment, et qu'en même temps, on parlait de souveraineté européenne. On ne peut pas parler de deux souverainetés à la fois, c'est pas possible. Comment vous réagissez à cette idée ?
Il y a deux manières de voir les choses. Finalement, la souveraineté est soit un concept qu'on peut diviser, qu'on peut partager en différents échelons, soit c'est un concept qui, comme le point en géométrie, n'est pas divisible. Et donc, il n'y aurait qu'un titulaire de la souveraineté qui serait le peuple national. Pour penser la souveraineté à l'échelle européenne, je ne pense pas que le schéma de l'État fédéral soit tout à fait pertinent, puisque ça supposerait qu'il y ait un échelon souverain qui serait le niveau bruxellois, le niveau européen, qui viendrait annihiler les souverainetés nationales. Or, pour penser une Europe qui serait une Europe souveraine, peut-être faut-il se donner les moyens de penser une souveraineté à deux étages, ou même à trois étages, lorsqu'on considère les États fédéraux, les États membres de l'Union européenne qui sont déjà des États fédéraux. Donc je parlerai davantage de souveraineté européenne si on accepte que ce concept n'est pas l'apanage de l'État, mais j'aurai plus de difficultés avec le concept d'Europe fédérale. Donc en fait, ce à quoi nous invite l'Union européenne, c'est peut-être à une redéfinition elle-même du paradigme de la souveraineté.
Julien Baroche, est-ce que vous croyez que les menaces extérieures qui proviennent d'autres États-continents ou d'autres empires qui nous paraissent menaçants en ce moment, la Russie, l'Inde, les États-Unis, la Chine, peuvent contribuer à l'émergence d'une souveraineté européenne?
Alors la contrainte externe, oui, peut faciliter l'émergence à terme d'une forme de souveraineté européenne. Mais s'agissant de l'Europe puissance et de l'autonomie stratégique telle qu'elle est visée par Emmanuel Macron, ma tendance serait de croire que nous avons affaire à quand même un gros problème qui est l'allégeance aux États-Unis. Je parlais tout à l'heure des pays de l'Est qui considèrent que le parapluie américain est toujours la meilleure défense face aux agressions externes et non pas une quelconque défense européenne qui est de toute façon très balbutiante.
Ça pourrait changer si Donald Trump était élu, par exemple.
Oui, il y aurait un revirement de situation et on connaît donc la position du président Trump sur la question du rapport entre l'Europe et les États-Unis. Donc une autonomisation de l'Europe serait peut-être accentuée par le retour au pouvoir de Donald Trump.
Vous parlez d'une autonomisation de l'Europe. J'ai l'impression que vous avez du mal à parler de souveraineté de l'Europe. C'est quelque chose qui ne peut pas aller de soi, tant qu'il n'y a pas de peuple européen.
Disons que j'ai quelques réticences vis-à-vis du concept de souveraineté européenne, parce que je reste peut-être malgré moi attaché à l'idée d'une complicité, si je puis dire, conceptuelle entre l'État et la souveraineté. Mettre ensemble la souveraineté et l'Union européenne ne va pas de soi, même si c'est un processus vers lequel on peut tendre. La question du peuple européen est une question, bien sûr, très importante, et elle pose la question de savoir si on peut penser en même temps un peuple européen et un peuple national qui seraient maintenus, puisque la vocation de l'Union européenne n'est pas de fonder un peuple qui viendrait diluer les identités nationales, les peuples nationaux, les peuples des différents États. Donc, ce à quoi nous invite l'Union européenne, la construction européenne, c'est véritablement de penser la coprésence de la puissance publique, mais aussi la coprésence des peuples sur un même territoire. On peut dire les choses en repartant du citoyen lui-même. Le citoyen national n'est plus seulement citoyen d'un État, il est membre de l'Union européenne elle-même en étant justement membre d'un État. Donc il y a tout un processus de transformation à la fois de l'État et de transformation de la citoyenneté qui est à l'œuvre dans le processus de construction européenne.
Merci à Romain Leborn qui était à la technique aujourd'hui et merci à notre réalisateur Christophe Imbert et à notre recherchiste d'archives Franck Olivard. La semaine prochaine, nous laissons notre place à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes et on se retrouve la semaine d'après pour évoquer, on sera à 8 jours du scrutin européen, le fédéralisme et l'européisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.
Charline Vanhoenacker, juste après le journal de 19h, c'est Bistroscopie. Et cette semaine, vous allez boire des coups avec un compatriote pour vous raconter des histoires de français.
Oui, je rapatrie le caricaturiste star en Belgique, celui du journal Le Soir. Il s'appelle Pierre Kroll. Vous savez, les Belges regardent les Français en se disant « mais ils sont devenus fous, ces Gaulois
». Peut-être pas tort.
Franck Tillier, l'auteur de thrillers préférés des Français, est de retour en librairie. Par moins 40 degrés, plongé dans une enquête glaciale, Franck Tillier vous emmène à Norferville, au cœur du Grand Nord canadien. Dans l'univers hostile de cette ville minière, personne ne vous entendra crier. Norferville, le nouveau roman de Franck Tillier, chez Fleuve Édition.
Mince, une fuite, en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
17h56. 17h58.
L'enfer, le périph.
18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures en